Entre nous soit dit, une émission présentée par Fabrice Adjadj, avec aujourd'hui Philippe Rousseau. Qu'est-ce qu'un clown ? Il n'est pas facile de le définir et essayer de le faire pourrait nous mettre nous-mêmes dans une position clownesque, celle de vouloir saisir l'insaisissable, comme la poursuite d'un savon qui glisserait sans cesse de nos mains et finirait par se mettre sous notre pied. Ce qui est certain, c'est que la figure du clown hante notre enfance et qu'elle y apparaît comme double. Cette figure conjugue à la fois le rire et la terreur, l'insouciance et la pitié, comme si, dans cette figure, le comique et le tragique étaient inséparables et l'ambivalence inévitable. Aussi, certains vont-ils tirer le clown vers le personnage maléfique, comme Stephen King dans son roman « Ça », d'autres vers le vagabond innocent, comme Charlie Chaplin, bien sûr, d'autres encore vers le jongleur comique, comme Achille Zavatta. Et si le clown était encore au-delà de tout cela, si à travers ses rechutes et ses relèvements, il était d'abord une figure de l'humain, et si dès lors il était aussi une figure du chrétien. Saint Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, paraît en effet décrire la vie du chrétien comme un numéro de clown dans son costume trop grand. Notre trésor, dit-il, nous le portons en des vases d'argile. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés. Pour approcher ce mystère du clown, nous recevons aujourd'hui Philippe Rousseau. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes le fondateur de la compagnie Né à Né, de l'association Clown par Foi, en deux mots, formateur de clown, organisateur de stages clown et Bible ou Évangile. Vous êtes d'ailleurs clown vous-même sous le nom de Paul Bouchard. Et l'on peut voir votre clown dans le spectacle Rien à faire, un spectacle écrit par votre serviteur qui en ce moment, pour les besoins de cette émission, assume la position délicate, sinon clownesque, de vous vouvoyer et de faire comme si vous étiez un inconnu afin que nos auditeurs ne soient pas les spectateurs d'une complicité dont ils se sentiraient exclus. Cher Philippe Rousseau, donc, le clown est d'abord un protagoniste du cirque. Comment ce déséquilibriste apparaît-il sous le chapiteau ? Comment devient-on clown au milieu des dompteurs et des acrobates, qui sont plutôt des hommes habiles et des hommes de la maîtrise ?
Oui. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais essentiellement quand même qu'il apparaît avec le chapiteau, le clown. Le clown, finalement, tel que je vais en parler, est-il apparu ou est-il, a-t-il émergé à un moment donné de l'humanité? Je pense qu'il a toujours été proche de l'humain et donc il a toujours été là. Mais effectivement, dans les représentations contemporaines, ça vient du cirque, ce personnage. Et effectivement, pourquoi apparaît-il? Ben, tout simplement parce que le cirque lui-même apparaît à la fin du XVIIIe siècle et que le cirque est le lieu de l'excellence, de la performance, des pépites, de ce qui brille. Et forcément, ça ne dure qu'un temps pour un être humain lorsqu'on est compétent, lorsqu'on est performant, lorsqu'on sait faire un triple saut périlleux arrière, etc. Et donc, au bout d'un moment, soit on est trop vieux, soit on est cassé, foutu, on est un dompteur et on s'est fait bouffer le bras par un lion, on est tombé de son trapèze ou sans filet, etc. Et donc, on reste dans la troupe, on reste dans la compagnie des autres circassiens.
Parce que c'est une famille, on ne peut pas en sortir comme ça.
C'est une famille, tout simplement, et on fait partie du corps, si j'ose dire, de cette famille, au sens du corps social. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on est cassé, trop vieux, foutu? Eh bien, on peut aider, par exemple, à changer les décors, à faire patienter le public pendant entre deux numéros exceptionnels. Et donc, on peut faire quelques grimaces pour que ça soit plus détendu. Et voilà, le clown est né comme ça. Ce qui fait que, alors c'est quand même peut-être le premier paradoxe, ce qui fait que ensuite le cirque a été comment dire valorisé. Enfin, la figure de proue du cirque, c'est le clown, alors que c'est celui qui justement n'est plus capable de faire quoi que ce soit.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur les affiches de cirque, on voit presque toujours un clown, et pourtant il est le négatif, on pourrait dire, de la performance qui est proposée généralement par les spectacles de clowns.
Voilà, le négatif, c'est-à-dire finalement, en termes photographiques, c'est ce qui va bientôt être révélé.
C'est ça. Alors justement, il n'apparaît généralement pas seul à l'origine, ce clown. Il apparaît au sein d'une triangulation. En réalité, il n'y a pas un clown, il y en a deux. L'Auguste, avec le nez rouge, et le clown blanc, qui rappelle un peu le Pierrot. Et puis, il y a aussi Monsieur Loyal, dans des célèbres entrées clownesques, reprises d'ailleurs de la tradition du cirque par Tristan Rémy. Il y a toujours ces trois personnages, le clown blanc, l'Auguste et Monsieur Loyal. Pourquoi ces trois? Pourquoi est-ce que le clown, finalement, est d'emblée trinitaire? Est-ce qu'il y aurait un lien?
Ça s'est stabilisé comme ça. L'Auguste, enfin, c'est-à-dire ce qui est au niveau du cirque le plus proche de ce que je travaille, l'Auguste est venu un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ça s'est stabilisé, je crois même relativement vite, avec ces trois personnes. Bah, ces trois personnes symbolisent le pouvoir pour Monsieur Loyal, le savoir pour le clown blanc et le devoir pour l'Auguste. Et ces trois figures, ces trois concepts, savoir, devoir, pouvoir, sont, ça c'est mon point de vue, ce qui est mis à mal par donc l'Auguste, c'est-à-dire le clown que moi je travaille. Donc c'est comment tout ce qui dans la société relève du pouvoir va être renversé, ils renversent les puissants de leur trône, etc. Même chose au niveau du savoir, le clown, on pourrait dire à l'université, qu'est-ce qu'il ferait, et puis du devoir aussi, alors dans un certain sens du devoir en tout cas. Donc ces trois figures-là sont renversées. Et je ne sais pas pourquoi ce renversement, alors c'est certainement très très profond, mais je n'ai pas les arguments qui me viennent là.
Je me demande si, ça me fait penser un peu à la philosophie d'Emmanuel Lévinas, qui essaye de penser la relation éthique, donc la relation qu'on pourrait appeler celle du devoir, par-delà le pouvoir et le savoir. Mmh. Et je me disais, voilà, le clown, c'est celui qui doit, et d'une certaine façon, c'est une figure d'obéissance aussi, le clown, il obéit, mais il doit sans savoir ni pouvoir. Il ne sait pas comment on fait, et il n'a même pas le pouvoir de le faire. En cela, d'ailleurs, il est très proche de cette situation première de devoir ou de responsabilité, qui est celle du père de famille, on pourrait dire. Mmh. Le père de famille se retrouve dans une situation d'autorité sans compétence. Il doit s'occuper de cet enfant, mais il est lui-même encore un peu gamin, enfin, nécessairement. Il ne sait pas comment on fait, ça ne se réduit pas à un mode d'emploi, c'est une autre personne. Donc voilà, devoir, il doit, et devoir sans savoir ni pouvoir. On pourrait dire que c'est déjà la situation clownesque de la paternité, quoi.
Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'il faut bien comprendre. Le clown, je vais peut-être l'élargir à d'autres propos ensuite, mais il est essentiellement, il incarne essentiellement une tension, et notamment c'est le plus dépendant qui soit, c'est le plus obéissant qui soit, et en même temps le plus libre qui soit. Donc il vit, c'est presque un pléonasme ce que je veux dire, il vit de tension quand on est vivant. Enfin, si par exemple on va chez le médecin et puis qu'il nous dit qu'on a zéro de tension, on va pas l'entendre, quoi, c'est qu'on est mort. Donc le clown vit de tension, et notamment cette tension du devoir qu'il ne peut pas assumer.
Alors justement, cette figure du clown a été sortie du cirque, mise sur la scène. Elle est devenue même une modalité de travail à l'intérieur d'écoles de théâtre, et notamment dans l'école qui a été créée par Jacques Lecoq, dont sont sortis Ariane Nouchkine ou Philippe Cobert. Et ça a été développé, donc le clown, surtout celui que vous pratiquez, est parti un peu de ce travail de Lecoq, aussi développé par Mario Gonzalez. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce qu'a apporté Lecoq pour détacher le clown de son contexte de cirque?
Il ne l'a pas détaché, ou du moins dans son postulat, il est parti du fait qu'il allait faire une recherche sur le rire, en précisant que cette recherche n'avait pas de rapport avec le cirque. Il a gardé, je ne sais pas pourquoi, le mot clown, parce que effectivement, les clowns sont censés faire rire au cirque. Donc, il a dit, on va appeler ça clown, mais sa recherche n'a rien à voir, il le précise dans son livre Le corps poétique, n'a rien à voir avec la recherche du cirque. Il n'y a d'ailleurs dans sa proposition sur le clown aucune nécessité d'être performant dans quoi que ce soit, dans aucune discipline que ce soit, contrairement au cirque. Et donc, alors voilà comment il s'y est pris. Il avait ses apprentis acteurs, une vingtaine assis en cercle avec lui, à ses côtés, et il leur a demandé à chacun de venir essayer de faire rire pendant 2 minutes. Et à chaque fois, c'était la catastrophe, parce que, voilà, tout le monde essayait, et au bout de 2 minutes, on se rendait compte que ça marchait pas. Et
c'est un exercice qu'on appelle le bide.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'il a appelé ensuite la pédagogie du bide, parce que, justement, ça rigolait. Si, ça rigolait, mais uniquement quand la personne qui avait échoué pendant 2 minutes allait s'asseoir, soulagée enfin. Voilà, donc la pédagogie du bide. J'ai appris d'ailleurs, je pense que la source est bonne, que ce mot-là venait d'une expérience que les circassiens, donc, qui échouaient, vivaient dans le cirque. Lorsque ça marchait pas, leur numéro, lorsque c'était pas bon, ils se recevaient des projectiles, des tomates, et puis ils rampaient sur le ventre, sur le bide, jusqu'à, comme les lions, dans la cage, là, etc., pour ne pas se recevoir ces projectiles. Donc, se prendre un bide viendrait de là.
Mais hors le bide, il y a eu aussi un travail, alors c'est peut-être plus Mario González qui l'a développé, mais c'est déjà chez Lecoq, sur le masque aussi. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, cette question du masque, puisque le clown porte le plus petit masque du monde, c'est son nez rouge. Et alors, qu'en est-il de ce masque, justement ?
Alors, effectivement, alors il y a deux choses. Peut-être, c'est un masque, le nez rouge, c'est effectivement appelé comme ça, le plus petit masque du monde. Mais c'est comme tous les masques, à la fois quelque chose qui masque, forcément, mais qui révèle aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on porte un masque, on n'a pas la mobilité du visage disponible pour le spectateur. Et donc, il y a un travail corporel qui va être plus accentué, le corps dans son ensemble, qui va faire que l'engagement, finalement, l'incarnation va être plus intense, en quelque sorte, sur scène. Et donc, il y a une sorte de révélation, quelque chose se révèle, se rayonne, est projeté sur le spectateur du fait que je suis masqué. Donc, c'est à la fois quelque chose qui masque et quelque chose qui révèle. Mon premier maître de clown, qui était donc le premier prof de chez Lecoq aussi, Philippe Gollier, racontait ceci. En fait, si nous sommes à la place de l'Étoile à Paris, par exemple, aux heures de pointe, et que nous essayons, habillés normalement en civil, on va dire, de mettre un peu le bazar dans la circulation, nous allons nous faire écraser au bout de 10 secondes, parce qu'on va énerver tout le monde, alors que si on a un nez rouge, on a au moins 10 secondes supplémentaires. Et donc j'étais stagiaire ce jour-là, et un autre stagiaire qui était anglais avait compris que c'était donc du coup une autorisation d'avoir ce nez rouge, une autorisation de vivre un peu plus longtemps, et il avait dit avec son accent anglais, j'ai bien retenu ce petit jeu de mots, ah alors donc avec le nez on knows.
Mais alors justement l'audace que permet le nez, qui est une audace aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que même pour le spectateur qui osera certaines choses face au clown qu'il n'oserait pas autrement face à l'homme qui resterait dans son costume de ville ordinaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le nez est ce qui fait tomber les masques sociaux habituels, hein, et tomber les conventions. On voit ça d'ailleurs avec les enfants. Dès que quelqu'un arrive avec un nez rouge, j'ai pu l'expérimenter moi-même, puisqu'on a travaillé ensemble ces choses-là, animant un anniversaire en clown, j'étais d'abord en père de famille et tous les enfants me respectaient avec distance. En même temps, j'étais une sorte de monument, quoi, qu'on contournait. Et je mettais le nez rouge, je revenais en clown. Et là, c'était tout autre chose. Ils étaient à la fois un peu terrifiés, hein, c'est des enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sentent qu'ils sont dans une situation qui n'est plus soumise au contrôle social habituel. Et donc, même à certains moments, entrant en clown, on peut même se faire lyncher. C'est-à-dire que la personne qu'ils respectaient, avec laquelle ils avaient une distance, tout d'un coup se retrouvait aussi vulnérable, exposée. C'est-à-dire de faire tomber les conventions, c'est aussi une mise à nu que produit ce nez.
L'audace, l'autorisation, je vais dire même la liberté, c'est contagieux. La liberté du clown, le clown est libre, libère également les autres. Et donc ces autres se sentent probablement autorisés à leur tour à entrer en tout cas en relation avec ce clown d'une manière moins socialement convenue. Quoi.
On voit ça d'ailleurs dans vos spectacles, vous adressez à la salle, vous êtes en rapport avec ce contact direct avec la salle, mais alors parfois il y a des gens qui respectent la convention théâtrale de ne pas parler pendant le spectacle, et puis parfois vous avez des personnes qui réagissent et qui carrément presque rentrent dans le spectacle, ou en tout cas se mettent à parler.
Il y en a qui ajoutent du texte à la pièce, c'est quand même incroyable.
Oui. Alors justement, on parle de spectacle de clown, mais il y a quand même une différence entre le clown et l'acteur, et entre le travail que vous proposez dans des stages de clown et ce qui serait, par exemple, un stage de théâtre. Mm-hmm. Quelle est la différence entre les deux ?
Alors, c'est un art de la scène, je vais le dire de façon différente, mais peut-être même un petit peu antinomique. Ça fait partie de ce qu'on peut travailler pour vivre, être plus vivant sur scène. Le spectacle vivant, je recherche essentiellement une chose, à être vivant sur scène. Donc ça fait partie de ces différents domaines qui de plus en plus, dans la recherche contemporaine au niveau artistique, mélangent quand même les genres, la danse, le théâtre, le clown, le cirque, etc. Mais maintenant, si je fais des distinctions, il faut distinguer vraiment plusieurs choses, en tout cas plusieurs axes du coup, puisqu'ils peuvent se mélanger ensuite sur scène. Le clown effectivement fait rire, par exemple, mais le comique aussi fait rire, les situations burlesques font rire, le bouffon fait rire. Donc quelles sont les différences? Si je compare par exemple clown et bouffon, ce sont des choses un petit peu simplifiées que je vais dire, mais le clown, on se rit de lui, alors que le bouffon se rit de nous, par exemple. L'acteur comique, c'est tout simplement le comédien, c'est celui qui joue dans une comédie. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le clown. Et le burlesque, ce sont plutôt les situations qui font rire, alors que le clown, c'est la personne du clown qui fait rire. Donc il y a des distinctions à opérer comme ça. Pour y voir plus clair, c'est pas nécessairement opératoire pour créer. Ça permet d'enrichir plutôt la palette, d'avoir plusieurs colorations lorsqu'on met en scène ou lorsqu'on joue.
Mais justement, il y a deux choses qu'on pourrait dire, que j'ai apprises du reste de vous, c'est que l'acteur, lui, part d'un imaginaire, d'un texte qui est déjà donné, et essaye de le rendre réel sur le plateau, de lui donner des effets de réalité, disons, alors que, à l'inverse, le clown part de ce qui est en train de se jouer sur le plateau de théâtre, enfin sur la scène, ce qui se passe du côté des spectateurs, les accidents qu'il peut y avoir, et il ouvre un imaginaire à partir de cela. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il y a toujours un programme, en tout cas il y a un livret, en tout cas il y a un texte, il y a une pièce pour préparer pour l'acteur, alors que chez le clown, il y a le moment présent et ce qui se joue à ce moment-là. Et c'est à partir des accidents, de ce qui peut se passer, qu'il va lui renvoyer à une ouverture, à un imaginaire, à une poésie.
Oui, pour le clown, ce qui arrive est plus important que ce qui est prévu. Et effectivement, l'acteur, on pourrait le traduire comme ça, pour jouer encore sur une inversion, comme je disais tout à l'heure. L'acteur essaye de vivre ce qu'il joue. Je dis ça, évidemment, il y a beaucoup d'écoles d'acteurs différentes qui vont nuancer ce que je dis là. L'acteur essaie de vivre ce qu'il joue, alors que le clown joue de ce qu'il vit. Et ce qu'il joue, l'acteur, effectivement, c'est prévu. Ça part d'une fiction, d'un imaginaire, d'une pièce. Et donc, essayer de vivre ce qu'on joue, ça peut être, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas vivant, mais ça peut être un petit peu figé, puisque c'est finalement toujours la même chose qu'on va jouer. Alors que vivre de ce qu'on vit, quand je suis en train de jouer un spectacle, ce que je vais y vivre, je ne peux pas le préparer, je ne peux pas le prévoir, puisque je vais vivre quelque chose qui va être déjà en relation avec un groupe de spectateurs que je ne reverrai jamais plus dans cette configuration-là. Donc, si je joue de ce qui m'arrive, parce que ce qui m'arrive, c'est ce que je vis, je vais effectivement bousculer un petit peu tout ce qui était prévu.
Alors, justement, jouer de ce qu'on vit, c'est presque dégager une poésie, non pas à partir d'un art poétique, finalement, déjà prévu, donc pas à travers une pratique du vers ou du drame lyrique, mais à partir du quotidien, d'une certaine façon. Il y aurait ce lien entre... C'est souvent ce qu'on voit, d'ailleurs, chez le clown. Hein, il fait rire, mais en même temps, on rit de lui, mais en même temps, il dégage une certaine poésie de la vie quotidienne, puisqu'il part de sa vie telle qu'elle est donnée.
Oui, c'est ça. Je ne comprends pas, je réalise là à l'instant que je ne comprends pas l'expression « vie quotidienne ». Y a-t-il une vie autre que quotidienne ? Donc effectivement, ce que nous vivons, c'est ce que nous recevons à chaque instant, c'est ce qui nous arrive, je disais. Et alors, je ne sais pas si je vais appeler ça poésie. Je ne sais pas si, parce que dans l'idée de poésie, il y a l'idée de faire. Je crois que tout ça dépasse un petit peu le clown. Je pense qu'il est poète, j'ai même envie de dire presque poème, malgré lui. Malgré lui. Et que tout ce qui lui arrive et dont il est le transfo, un petit peu, qu'il renvoie avec sa propre façon d'en jouer, justement, le dépasse complètement, et même peut-être l'indiffère, c'est-à-dire que, alors moi, Philippe Rousseau, je peux être intéressé par ce que produit mon clown Paul Bouchard, mais un petit peu comme ça, par orgueil, par curiosité, mais Paul Bouchard, le clown en général, ça lui est un petit peu indifférent, je veux dire, tout ce qui va être bilan, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça renvoie, est-ce que j'ai fait de la poésie, tout ça, c'est pas tellement sa question, je pense.
Oui, c'est ça, c'est quand j'essayais de dire une poésie en dehors de tout art poétique,
oui, voilà.
C'est finalement de ne pas faire de la poésie ou de faire poétique, mais d'être, reconnaître qu'on est soi-même un poème. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il est tout un poème, on met en avant finalement son aspect grotesque, décalé, etc. Mais justement, alors, ça veut dire qu'on serait avec le clown dans quelque chose qui est au-delà du savoir-faire. Que le clown, il a moins un savoir-faire qu'un savoir être défait ou qu'accepter d'être défait, je pourrais dire, sur scène. Ouais. Et alors, c'est ça qui est très curieux, c'est que d'une certaine façon, il n'a pas l'initiative. Hein, celui qui a le savoir-faire, il a l'initiative. Il y a ce clown juif, Avner, qui disait ne cherchez pas à être intéressant, soyez intéressé. Le propre du clown, c'est qu'il est polarisé sur autre chose que lui, ce que vous disiez, hein, c'est pas centré sur soi-même, et on voit ce qu'on produit, comme pourrait faire le comique, hein, qui ne cesse de mesurer ses effets et qui ne cesse d'attendre ce retour direct du public, et on sent même parfois qu'au moment du rire, il y a cette pause chez lui où il est en train d'encaisser les dividendes, vous voyez, de son art, etc. C'est assez curieux.
Ou sa détresse que ça ne marche pas.
Ou la détresse que ça ne marche pas, voilà. Mais là, ça commence à devenir drôle. Alors, justement, à cause de ça, s'il n'a pas l'initiative, qui a l'initiative ? Est-ce qu'on peut être clown tout seul ? C'est la vraie question, parce que on voit bien que dans vos stages de clown, vous êtes toujours en train de diriger ce qui se joue sur le plateau, ce que les stagiaires en tant que clown font. Donc vous occupez la position d'un monsieur loyal pour que le clown soit encore dans la position du devoir. Hein, il doit faire quelque chose, devoir, sans savoir ni pouvoir. Est-ce qu'on peut être clown seul, ou est-ce que c'est une figure qui est nécessairement liée à une relation et à une relation à un autre qui apparaît toujours, cet autre, dans une position de supériorité, de commandement. C'est-à-dire que le clown, comme celui qui obéit, mais qui, à la limite, dans son enthousiasme même à obéir, fait un peu n'importe quoi, mais une figure, justement, d'humilité et d'écoute.
Oui, alors il faut le dire en plusieurs temps, parce que justement c'est encore une fois une tension. Par exemple, lorsque là vous dites que je dirige, oui, je dirige, c'est-à-dire je demande au clown, par exemple, de faire quelque chose, mais je suis d'abord le premier soumis à ce que je vois de lui. Alors le premier soumis à ma perception de ce que je vois de lui. Donc c'est toujours à travers mon filtre, mon imaginaire, ce que le film que je me fais sur ce qui se passe sur scène. Mais c'est toujours quand même à partir de ce qu'il nous offre le clown quand je suis, quand je vois un clown sur scène, c'est un donné et je recueille, je reçois ce donné-là pour lui, en fait, pour lui dire une seule chose tout au long d'une semaine de stage. Je dis à chacun une seule chose, encore plus de toi. Continue. Si tu lèves le bras, continue à lever le bras. Si t'es bloqué, continue à être bloqué. Si tu as peur, continue à avoir peur. Si tu cours, continue à courir. Si tu marches, continue à marcher, etc. Donc, je suis en train de lui dire, ce serait trop bête que tu ne continues pas à faire ce que tu es en train de faire, mais ce n'est pas un ordre. Alors, ceci dit, si donc je suis le premier soumis et que lui se soumet à cette demande que pressante que je lui fais, alors il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, et lui comme moi, nous sommes du coup, c'est un petit peu comme ça que je pourrais le dire, nous sommes du coup plus vivants grâce à cette relation établie, et cette relation étant une soumission réciproque.
Non, ce que je veux dire, c'est que finalement, on pourrait se représenter le clown comme celui qui échoue et qui se réjouit dans l'échec, qui vit le bonheur dans l'échec. Mais en même temps, le clown a le désir de bien faire. Il n'est drôle justement que parce qu'il avait d'abord un projet et qu'il a essayé de le faire. C'est parce que si on se dit, ben voilà, je m'en moque d'échec, il n'y a plus de tension.
Non, bien sûr.
C'est justement, il n'y a plus cette tension dont vous parliez qui est vraiment au cœur.
Dans ce qui arrive est plus important que ce qui est prévu, il faut que ce qui est prévu soit très important.
Voilà, c'est ça. Il y a une importance de ce qui est prévu. Donc, c'est donc à l'intérieur quand même d'un. C'est pas le refus de tout projet, c'est pas le refus de tout désir de réussite hein, qui serait derrière le clown, puisqu'il y a forcément ce rapport entre la réussite et l'échec. Et en même temps, à l'intérieur de l'échec, il y a l'ouverture de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que l'échec n'est pas vécu... C'est-à-dire que le projet se modifie, ou le projet n'est pas le critère ultime, comme vous l'avez dit. Hein. Mm-hmm. Ce qui arrive est plus important que ce qui est prévu. Il y a du prévu, il faut du prévu, mais voilà. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas, justement, dans cette situation, c'est pour ça que je reviens à cette situation de relation, une personne qui est là, envoyée dans en mission... Mm-hmm. Une mission, on pourrait dire, surnaturelle, et qu'elle est trop grande pour lui, d'une certaine façon. Et c'est ça qui va le mettre en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il a d'abord l'écoute d'une mission qui est trop grande, parce qu'il y a toujours un rapport à la disproportion chez le clown, ne serait-ce que dans son vêtement, ce qu'il est, dans son désir, dans son... Voilà.
Ben, ce qui me vient, c'est une citation anonyme, en tout cas je ne sais plus de qui elle est, que j'avais vue. Le clown étant, alors ça c'est connu de tout le monde, étant donné que c'est celui qui rate, en fait pour pouvoir passer en dessous d'une barre, il suffit de la mettre très haute. Donc le projet du clown, la mission du clown, ce pourquoi il vient sur scène, il faut qu'il vienne avec quelque chose qui soit au moins le maintien d'une entrée, hein, comme on dit, une entrée clownesque. Si la barre est très très haute, il est sûr de passer en dessous. Ce qui, alors je dérive un peu de la question, mais ce qui nous fait comprendre peut-être dans notre société où l'échec est tellement catastrophique, nous fait comprendre que nous n'osons pas mettre la barre très très haute parce que ce serait trop risqué, on risquait de perdre la face ou le masque. et donc on s'engage très petitement, voire on s'engage pas du tout, pour éviter ce genre de situation. Le clown est quelqu'un qui s'engage énormément et donc qui met la barre très haute, quoi. Et son échec est inéluctable, mais il y croit quand même. Et ce qui lui arrive va dépasser largement toutes ses espérances, en fait. Il tient beaucoup à ce qu'il vient faire. Mais
il sait reconnaître ce qui arrive.
Il le reconnaît, ou il, en tout cas, il accueille, et à chaque instant, il se dit, mais heureusement que ça m'arrive, en quelque sorte, puisqu'il
il joue de ce qui lui arrive, donc il va faire quelque chose qui va comment dire dédramatiser l'échec de son projet initial et cette confiance, cette liberté, cette relation donc avec l'autre qui a ri de son échec par exemple. Ces trois mots-là, confiance, liberté, relation, c'est quelque chose qui va l'emmener mais bien au-delà de ce qu'il aurait pu concevoir.
On pourrait dire que, alors d'un point de vue, je dirais, philosophique ou phénoménologique, que c'est une figure de la vie elle-même comme ouverture à l'événement, et que l'événement, c'est justement ce qui est au-delà de mes projets, ce qui est au-delà de mon pouvoir. C'est une vie à l'impossible, hein, puisque finalement, l'événement, c'est ce qui ne m'était pas possible, et qui tout d'un coup advient.
Bah, c'est très simple. En fait, c'est la différence de potentialité entre le terme fabrication et le terme consentement. Le consentement peut potentiellement déboucher sur des choses bien plus grandes, importantes, nombreuses, riches, variées que la fabrication.
Voilà, la vie plus riche que le projet ou le découpage de construction que je pourrais m'en faire, ou la compréhension que je pourrais en avoir. Mais est-ce que derrière ça, ça ne nous fait pas glisser déjà, à travers ce terme de confiance, du côté de la foi, par exemple ? Foi en la vie, hein, foi aux données, aux événements, mais aussi un lien donc finalement entre l'échec du projet qu'on est obligé d'entériner et le consentement à ce que cet échec s'inscrit dans une providence finalement. On pourrait dire que dans le clown il y a toujours ce jeu entre l'échec de la mission, hein, et en même temps une sorte de providence du plateau, puisque ce qui arrive sur scène, ce qui n'était pas prévu, eh bien il va en faire son or ou il va en faire l'essence même de sa manifestation clownesque, c'est-à-dire ce qu'il n'avait pas prévu s'inscrit malgré tout dans une providence. Est-ce que chez le clown, il n'y a pas cette sorte de à l'intérieur d'une résolution à faire quelque chose quand même, une tension, une foi en la providence ? Ce n'est pas le mystère de la providence qui est déployé derrière.
Alors, si moi, Philippe Rousseau, j'en parle, je dirais oui, parce que c'est même toute ma recherche, ça. Et je peux en parler très longtemps, mais pour le clown, c'est pas du tout de l'ordre d'une conscience, de quelque chose qu'il appellerait providence. Il ne connaît pas, il sait pas ce que c'est que la providence. Enfin, mon expérience du clown ne pourrait pas me faire dire...
Est-ce qu'on sait ce que c'est?
Ouais, voilà,
je parle pas de la providence au sens théologique du terme, c'est-à-dire d'une réflexion.
En tout cas, il n'a pas
elle.
Ce vocabulaire, ce que je veux dire. Il ne connaît pas la providence, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la foi. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de dire, il vit, il incarne tout ça.
C'est ça.
Vous disiez que c'est une figure finalement de l'humain. Et ben oui. Et si, alors pour un chrétien, l'humain étant fait à l'image de Dieu, ben donc c'est une figure du divin. Ça me fait penser à une citation de saint Augustin qu'on pourrait sur Dieu, qui pourrait tout à fait s'appliquer au clown. Saint Augustin dit nous parlons de Dieu, alors pourquoi t'étonner si tu ne comprends pas ? Parce que si tu comprends, c'est pas Dieu. On pourrait dire strictement la même chose du clown, puisque vous disiez que c'était une savonnette. Et puis pour moi, la grande analogie entre le clown et la foi, ça serait, alors bien sûr, ça inclut la providence, et ce que vous en avez dit, mais ce serait une analogie de l'expérience pascale, hein, donc de mort et de résurrection, cette tension donc entre la vie et la mort, qu'on ne peut vivre avec un grand V que si on est déjà d'abord mort. Alors dans le cadre du clown, c'est ludique, c'est dans un cadre ludique, c'est-à-dire que on a un projet, on vient sur scène pour jouer à quelque chose, et finalement on va pas réussir à jouer à quelque chose qu'on avait prévu, mais on va jouer de ce qui nous arrive, et on va vivre bien plus fort justement par ce consentement que si on avait uniquement vécu de notre fabrication, enfin, etc. J'essaie de relier tout ce qu'on a déjà dit. Donc cette expérience pascale, c'est le lien pour moi fondamental entre l'expérience du clown et l'expérience chrétienne.
On pourrait même repartir du mystère pascal pour revenir vers l'existence, en dehors de toute considération, je dirais, religieuse. C'est-à-dire que mort et résurrection, c'est précisément le rapport que l'on peut avoir dans le consentement à l'événement. Quand je consens à l'événement, c'est que je suis prêt à mourir à mon projet, à ma planification, et que je suis capable de ressusciter en reconnaissant que ce qui est arrivé et ce qui est réel peut être plus grand que mon idéal ou que ce que j'avais voulu anticiper de la réalité.
Alors, ce qu'on peut dire autrement, d'ailleurs, je vais le dire de deux manières, le clown prend au sérieux les choses, celles qui lui arrivent notamment, mais ne se prend pas au sérieux, ce qui fait que pour lui, la vie est plus importante que sa vie. Et on a un témoin éminent de ça en la personne de Jésus.
Alors ça, on verra si Jésus est un clown ou si ce sont les apôtres qui le sont, parce que c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais avant cela, vous avez opposé deux termes qui m'intéressent spécialement, moi en tant que philosophe de la technique. Vous avez opposé fabrication d'une chose, d'un réel, et consentement d'une certaine façon au réel. Alors c'est très intéressant parce que le mot clown, enfin en tout cas sa racine, a donné lieu aussi à un autre terme, c'est du clone. Donc est-ce que le clown n'est pas le contraire du clone, le contraire du cyborg, le contraire du Terminator, si j'ose dire, celui qui ne conclut pas d'ailleurs, qui ne termine pas, celui qui n'a même pas l'initiative, celui qui se laisse toujours déborder, qui consent à une vie plus grande que sa vie. Est-ce que le clown ne serait pas une figure de l'humanité ou de l'humain résistant à l'emprise de la performance et de la technologie? Est-ce qu'il n'y a pas une actualité particulière de penser le clown pour penser le simple fait de rester humain?
Oui, alors effectivement, il y a clone dans la même famille, en tout cas au niveau de la sonorité, de ce qu'on entend des lettres et des mots et des syllabes. Mais ça viendrait, hein, selon les spécialistes, du mot clod en anglais, et qui veut dire bouse, mode de terre. Et donc, si on revient sur l'hébreu, ça fait Adam. Et donc, c'est l'humain de base, effectivement. Donc, celui qui colle à la poussière, qui colle à la terre. Et il aurait bien du mal à cette fois-ci, à être élevé à la hauteur de cette technique d'aujourd'hui qui est complètement décollée du sol.
Oui, une technique qui est une technique du virtuel, de l'information. On a l'impression que justement, il n'y a de clown que s'il y a incarnation. Pour dire que c'est, oui, essentiellement, c'est le corps qui parle, et c'est le corps qui, en plus, n'est pas le corps athlétique, le corps qui peut être déséquilibré, qui se prend les pieds dans le tapis.
Pour moi, c'est un corps eucharistique. Je vais déjà un peu plus loin, parce que c'est un corps qui parle et un corps livré à notre regard, et ce qui va d'ailleurs produire, en tout cas susciter chez lui, un possible consentement. Et ce corps qui parle et ce corps livré, c'est les deux tables de l'Eucharistie.
Alors, vous n'êtes pas le premier à faire le lien entre le clown et le chrétien, voire le clown et le témoin de la foi. C'est un lien qui avait déjà été fait par Kierkegaard, qui a été repris par le grand théologien protestant Harvey Cox, et qui est repris à travers ces deux passages par Joseph Ratzinger, donc le pape, futur pape Benoît XVI, dans un de ses livres fondamentaux, La foi chrétienne hier et aujourd'hui. Alors, il dit la chose suivante, je lis ce passage, hein, « Quiconque aborde de nos jours... » C'est l'introïde de son livre, hein, vraiment. Donc, il faut dire que la coloration du livre, c'est celle, justement, d'un numéro de clown.
Quand même. Qui date de 1969.
En plus. « Quiconque aborde de nos jours le problème de la foi devant des auditeurs peu ou pas familiarisés, de par leur profession ou le milieu ambiant, avec le langage et la pensée d'Église, ressentira bien vite la singularité, voire l'étrangeté de son entreprise. » Donc, vous voyez, parler de la foi, c'est une entreprise singulière et étrange. « Rapidement, il aura l'impression de se trouver dans une situation comparable à celle admirablement décrite par Kierkegaard dans son célèbre apologue, celle du clown criant au feu. L'histoire se passe au Danemark. Le feu s'était brusquement déclaré dans un cirque ambulant. Aussitôt, le directeur envoya le clown, déjà costumé pour le spectacle, dans sa hâte, au village voisin, où le feu menaçait de se communiquer également à travers les chaumes. Le clown se rendit en hâte au village pour appeler les gens au secours du cirque en détresse. Mais les villageois, accourus au cri du clown, crurent à un stratagème habile pour les attirer au spectacle et se mirent à l'applaudir en riant jusqu'aux larmes. Le clown avait plutôt envie de pleurer. Il s'efforça en vain de les conjurer et de leur démontrer qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, mais que le cirque était bel et bien la proie des flammes. Plus il insistait, plus on riait, plus on trouvait son jeu excellent. Quand finalement le feu eut gagné le village, il était trop tard pour intervenir. Tous deux, cirque et village, furent pareillement ravagés. Et Ratzinger poursuit en disant « Cox se sert de cet apologue pour illustrer la situation du théologien moderne. Le clown, impuissant à se faire comprendre, en serait le symbole. » Alors vous savez que Ratzinger est précisément celui qui, comme Benoît XVI, a rétabli le port des chaussures rouges et que quand on le voyait avec sa grande eau blanche, on avait l'impression de voir sortir dessous cette aube blanche deux nez rouges qui étaient la pointe de ses pieds. Alors est-ce que finalement il y aurait un lien entre la position du clown et non pas forcément, enfin la position du Christ bien sûr, et la position spécialement de celui qui serait envoyé, ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs avec une ambiguïté clownesque, la position du missionnaire.
Oui, alors pour moi c'est une telle évidence, je ne sais même pas comment le commenter. C'est en fait cette image du clown qui pourrait symboliser l'envoyé, c'est pas autre chose encore une fois que l'humain. Dans ce même livre, quelques pages plus tard, Ratzinger fait en quelque sorte un schéma en disant bah, y a Dieu qui nous envoie pour les autres, donc nous sommes envoyés, enfin ça, il parle d'abord du Christ mais ensuite de nous, donc à l'image de Dieu, et donc il nous envoie, on est envoyé par au service d'eux, en quelque sorte. Et tout ce qui va nous empêcher d'être dans cette circulation, finalement, parce que les autres, c'est qui les autres? C'est l'humanité, c'est le corps que nous formons tous ensemble.
Ça peut être Pharaon, même, justement, voilà. Puisque c'est ce qu'on voit dans Moïse.
Et tout ce qui va nous empêcher d'être clown, tout ce qui va nous renvoyer nos limites humaines, c'est en quelque sorte tout ce qui va nous empêcher d'entrer dans cette vocation, dans cet appel, dans cette mission, d'être envoyé par, au service d'eux. Donc, voilà, je ne ferai pas finalement une distinction entre... Alors, je vais quand même ensuite nuancer, mais entre le Christ, les apôtres, le théologien et le clown, il y a à un certain niveau une analogie vraiment juste. Alors, maintenant, si on pose la question, par exemple, parce qu'on est plus soulagé si on dit est-ce que les apôtres, voire même le pape, ressemblent à un clown, on est plus à l'aise que si on se dit est-ce que Dieu est un clown, est-ce que Jésus est un clown. Mais c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on se reposait cette question de cette façon-là, est-ce que Dieu est un clown ? Je pense que c'est parce que on rebasculerait dans nos représentations de Dieu un petit peu figées, et puis dans nos représentations du clown.
Un Dieu qui ne pourrait pas être Dieu le Fils, finalement. Parce que voilà. Le grand mystère chrétien, c'est que le Fils soit Dieu, et que donc l'envoyé soit encore Dieu, c'est ça. Et donc, c'est que, ça. Quand Dieu, que Dieu puisse être débordé. Comme on le voit à Gethsémani d'ailleurs, enfin, que ouais. Dieu puisse être lui-même en position, on pourrait presque dire, de déséquilibre.
Mais c'est ça. Et en fait, plutôt que de poser la question, même si elle reviendrait au même, Dieu est-il un clown, il faudrait se demander, alors, Dieu fait-il confiance? Dieu a-t-il peur d'échouer? Ben déjà, chapitre 3 de la Genèse, c'est la chute. Hein. Dieu est-il libre? Libère-t-il? Reste-t-il en relation coûte que coûte? Pense-t-il que tout est grâce? A-t-il un regard sans jugement? Obéit-il à la loi? Prend-il des risques? Est-il un corps qui parle et un corps livré? Est-ce qu'il sait que la vie naît de la mort, etc.? Si on pose la question comme ça, Dieu est-il tout ce qui je viens de caractériser ici? On va dire que oui, en tout cas pour le Dieu chrétien. Et c'est exactement tout ce qu'on expérimente, terme après terme de tous les termes que je viens d'employer, dans un stage clown où on fait l'expérience du clown. Le clown, c'est celui qui fait confiance, qui n'a pas peur d'échouer, qui libère et qui rend libre, qui reste en relation coûte que coûte, pour qui tout est grâce, etc. etc. Donc, pour détourner la nécessaire, mauvaise compréhension de la question « Dieu est-il un clown ?», il faudrait remplacer cette question par ce qui caractérise
pour un chrétien, autant qu'on puisse en parler, bien sûr, Dieu et ce qui caractérise le clown quand on en fait l'expérience. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une analogie, des analogies assez patentes.
Alors justement, pour revenir à cette question de, d'abord du témoignage du chrétien comme clown, comme témoignage du dieu clown, on pourrait dire, ça nous renvoie à la situation actuelle, c'est ce dont parlait Ratzinger, ce dont parle Harvey Cox au début de son livre qui s'appelle « La cité séculière » et donc qui essaye de penser l'annonce de l'évangile à une époque qui est profondément marquée, non simplement par la sécularisation, mais par le fait que cette sécularisation est liée à, au règne de la technique. Hein, Cox insiste, c'est un des premiers théologiens à prendre en considération cette question de la technique, et donc sur le fait que justement la cité séculière est une cité non pas de la confiance, mais plutôt du contrôle, non pas d'une certaine abandon à la providence, mais au contraire d'un désir de planification, jusqu'à une planification qui va nous faire arrêter d'avoir des enfants pour fabriquer des surhommes, pour fabriquer des cyborgs. Donc, au fond, la position de l'envoyé, comme vous en avez parlé, hein, en lien avec le clown, c'est-à-dire celui qui est envoyé par un autre pour un autre, c'est exactement le contraire de la position, on pourrait dire, de l'ingénieur, l'ingénieur pris dans son sens le plus étroit, c'est-à-dire l'ingénieur lié à l'emprise technologique, part de son projet de transformation et qui va l'imposer comme une offre qui va essayer d'asservir la demande sous prétexte de service de l'autre, hein, mais le renvoyer finalement à une soumission encore plus grande aux machines. Donc, on pourrait dire qu'il y a une urgence à penser le clown et que le problème que rencontre la figure du clown et que rencontre en fait le chrétien, c'est toujours le fait que son message est toujours interprété dans le sens de l'utilité et de la performance. De la même façon, vous avez dit, on parle de Dieu, on peut dire tout ce qu'il est, mais finalement, on le ramène à une logique qui est celle de l'utilité et de la performance.
Mais oui, je ne sais pas trop quoi dire suite à ça, parce que effectivement, c'est le grand hiatus, c'est le grand écart entre tout ce que nous... Alors si je reste au niveau de l'expérience du clown, de tout ce que nous souhaite, j'ai presque envie de dire, le clown, lorsque il est là, livré devant nous, tout ce qu'il nous souhaite, donc cette confiance, cette liberté, cette audace, cette vie en relation, et donc cet écart gigantesque entre ça et nos sécurités, nos conforts, notre volonté d'indépendance.
Je dirais qu'il y a la situation de Socrate face aux sophistes, telle que la met en scène Platon, c'est-à-dire que quand Socrate pose des questions, vraiment pour essayer de montrer qu'il y a une vérité qui est au-delà des rapports de force, et alors il interroge, il cherche avec, mais alors son interlocuteur sophiste, au bout d'un moment, lui dit, alors parce qu'il est déconcerté, mais il lui dit « Ah vraiment, Socrate, t'es le plus fort !» Et on pourrait dire la même chose, voilà, il le réduit toujours à cette logique du rapport de force. Mmh. Et donc ça veut dire que même ce que va proposer Socrate est réinterprété dans ce cadre-là. Mais même à la limite, vous jouez un spectacle de clown et la question, c'est à la fin, on va dire, quelle performance d'acteur, on va vous dire, ou alors, et même vous-même à la limite, vous dire, est-ce que j'ai été bon?
Oui, c'est ça. Mais ouais, par exemple, un des axes qu'on travaille, donc c'est la distinction que je fais entre une logique de performance. Alors celui qui est dans une logique de performance, c'est celui qui plus que tout, pour lui, plus que tout compte de réussir, et celui qui serait dans une logique d'engagement, c'est celui pour qui plus que tout, ce qui compte, c'est d'être engagé. Eh bien, certains sont, enfin la plupart des personnes sont d'accord sur la richesse d'une logique plutôt d'engagement que de performance, parce que la performance, on voit bien que ça peut faire beaucoup de mal, mais en même temps, ils sont en train de dire à la fin du stage, j'espère que je vais réussir à m'engager.
Oui, c'est ça. Et on revient toujours à ça, à ce désir de réussite et de planification, mais ça veut dire qu'il y a qu'en morale ou dans le domaine même de la sanctification, il n'y a pas de recette finalement.
Non, non, non.
C'est pas un programme. Il n'y a pas un programme de sanctification.
Non. Alors, c'est peut-être là qu'on va rejoindre cette notion de providence, cette notion de pluie, de la grâce à chaque instant. Ceci dit, alors à chaque fois, comme c'est une savonnette, il faut pas non plus en conclure qu'on a qu'à se laisser aller et se laisser porter. Il y a effectivement des projets, des missions, des choses qu'on veut faire. Et à travers cette volonté qu'on met au service d'un projet, du moment que ce qui nous arrive est plus important que ce qui est prévu, que nos projets, c'est-à-dire du moment que la vie est plus importante que ma vie, alors à ce moment-là, on va aller très très haut ou très très bas, mais finalement, ça se rejoint.
Il n'y a pas non plus de niaiserie, c'est-à-dire certains, au terme du stage de clown, voudraient avoir été un stage de développement personnel où vous leur avez communiqué des énergies positives, parce que cette idée de s'ouvrir à la providence plutôt qu'au programme, plutôt que d'être soumis à un programme ou de se soumettre à un programme, implique la croix. Parce que la providence suppose que celui qui prévoit, celui qui voit, c'est Dieu incompréhensible, c'est celui que je ne vois pas. Et donc je dois accepter de n'y rien comprendre parfois. Cette croix est là, enfin, c'est aussi Gethsémani qu'il y a derrière le clown.
Ah, complètement. Effectivement, la plupart des personnes viennent avec cette motivation, je le dis de manière un peu légère, de développement personnel, avec les ondes positives, comme vous dites, etc. Non, le stage de... Enfin, on peut très bien, et ça fait partie du projet. Mais ils entrent quand même assez facilement dans ce qui arrive, et ce qui arrive, c'est une semaine où il y a deux choses, mais c'est une seule et même chose. Il y a révélation de notre péché, je vais le dire en termes théologiques, et de la miséricorde en même temps. Et donc, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait en général.
La miséricorde ayant justement, dans sa lumière, de révéler notre misère. C'est ça qui est insupportable dans la miséricorde.
Voilà, donc ça passe, c'est un passage, c'est une Pâque, ça passe par cette révélation-là, et ça débouche, je ne sais pas si le terme est juste, ça débouche, peut-être parce qu'on était bouché, je ne sais pas.
Alors, on peut inviter nos auditeurs à s'inscrire à un stage de clown, parce qu'en parler est une chose.
En tout cas, s'ils n'osent pas en parler, qu'ils vont faire un stage de clown, parce que ça arrive très souvent, qu'ils puissent citer les Shadocks qui disent qu'il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
Voilà, donc sur quel site il pourrait savoir d'abord avoir les informations sur ce que vous faites, vos prochains spectacles, et puis éventuellement s'inscrire à un stage.
Eh bien, par exemple, le site le plus récemment fait, c'est La Croix Vosgienne. Donc, je ne sais plus exactement quelles sont les coordonnées du site, l'adresse exacte, mais ils tapent La Croix Vosgienne, tout attaché, et ils vont trouver quelque chose.
S'ils demandent à Gogol de Philippe Rousseau aussi.
Voilà, Philippe Rousseau, clown parfois, La Croix Vosgienne, Rien à faire, c'est le titre du spectacle, enfin voilà.
Ça sera une manière de demander au moteur de recherche les moyens de tomber en panne. Voilà, merci Philippe Rousseau.
Merci.
C'était Entre nous soit dit. Une émission proposée par l'Institut Philanthropos avec Fabrice Adjange et à la technique la merveilleuse Marlène Caron, dont le silence ménage un espace à nos paroles. Et n'hésitez pas à vous déconnecter du moyen par lequel vous nous avez écoutés pour être attentif à ce qui se passe ici et maintenant autour de vous. À bientôt.